Voilà, bienvenue à tout le monde. Il y a quelques personnes qui nous ont rejoints. On est très contents de les accueillir. La matinée va se dérouler de la manière suivante. D'abord, nous allons entrer dans la réflexion sur la communauté créative avec la conférence du père José Granados, qui est ingénieur et docteur en théologie, membre de l'Institut religieux Les Disciples des Cœurs de Jésus et de Marie, spécialiste des Pères de l'Église, avec une thèse sur Saint Justin. Actuellement, il occupe la chaire de théologie du mariage et de la famille à l'Institut Jean-Paul II, dont il est vice-président. Et il est également professeur invité en théologie dogmatique à l'Université pontificale grégorienne et à l'Université catholique d'Amérique, Washington, D.C. Il est l'auteur, sous sa propre plume, de nombreuses publications en espagnol, italien et anglais. Et je viens de vous lire cela sur son livre, un de ses nombreux livres qui s'appelle « La carne si fatto amore » en italien. « La chair s'est faite amour », traduit différemment en espagnol et en français. « Théologie de la chair, le corps à la charnière de l'histoire du salut ». Alors, ce matin, après son intervention, on fera tourner pendant 10 minutes, un quart d'heure, éventuellement, le micro dans la salle, s'il y a des questions qui sont restées coincées entre le lieu de leur élaboration et le lieu de leur expression dans tel ou tel d'entre vous. Ensuite, nous leur dirons au revoir parce que l'avion les attend. Et on aura un temps de réflexion en groupe, si vous le souhaitez, pour voir comment ce que nous avons entendu pendant ces jours peut irriguer ou aider nos pratiques concrètes dans la mission, dans la vie ensemble. Et puis on essaiera ensuite de donner quelques points de synthèse, si j'y arrive, avant la célébration de la messe. Est-ce que ça vous va ? Oui ? Alors, cher père.
Alors, bonjour. Et aujourd'hui, le titre de la conférence est « Ghetto, masse ou minorité créative ?» La fécondité sacramentelle. Je ferai une introduction et trois points. Et c'est un fait qu'avec plus de force, chaque jour, la sécularisation contemporaine interpelle l'Église sur son mode de présence dans la société. En effet, cette sécularisation ne consiste pas d'abord en une diminution du culte. En certains lieux, on constate même un certain renouveau du phénomène religieux. J'ai parlé hier d'un revival religieux. Mais cette sécularisation consiste en la perte de l'importance sociale de la foi, foi qu'on considère en outre comme une option accessoire et non comme une réalité fondatrice de la vie personnelle. C'est les deux niveaux de sécularisation, la perte de l'effet social de la foi et la foi comme un choix accessoire dans la vie. En réponse à ce contexte sécularisé, Benoît XVI a suggéré la nécessité pour l'Église de donner naissance à des minorités créatives. Il reprenait ainsi une expression de l'historien anglais Toynbee, qui l'utilisait pour analyser les grands changements de civilisation. On découvrait ainsi que ceux qui avaient causé le nouveau paradigme social n'étaient pas de grandes masses, mais de petites minorités créatives capable de saisir intuitivement et d'engendrer un nouveau tissu culturel. Pour bien comprendre ce que l'on veut dire quand on parle de ces minorités créatives, il est nécessaire de les distinguer des ghettos, ou les ghettos, c'est les communautés fermées en présence d'une atmosphère sociale oppressive. Et je pense que la distinction est possible à partir de l'adjectif créatif. La minorité, ce n'est pas un ghetto parce que c'est une minorité créative. Ces minorités, c'est-à-dire, sont capables d'engendrer de la culture autour d'elles, la culture chrétienne. Je voudrais essayer de montrer que dans le christianisme, cette culture est une culture sacramentelle, celle capable de répondre aux défis de la sécularisation contemporaine. Et je voudrais également montrer que la minorité créative peut se définir comme une minorité engendrée sacramentalement et génératrice d'une vision et d'une perspective sacramentelle. Cela nous aidera de commencer par l'approche de notre question offerte par Jean Danielou, un temps où l'on commençait à sentir les premières vibrations de ces grands changements. Et ce sera le premier point, la vision, la discussion de Jean Danielou, et civilisation chrétienne ou christianisme des minorités. Et ces questions que hier aussi, dans les débats de Lustiger et Ratzinger, les différentes approches s'étaient aussi approchées. Et puis, je ferai un deuxième point qui sera la description de la minorité créative comme une créativité d'espace et temps. Et finalement, qu'est-ce que ça veut dire que c'est une minorité créative sacramentelle? Ce sera les trois points. Alors, le premier point, la civilisation chrétienne ou le christianisme des minorités, point de demande. Dans un de ses écrits, Jean Danielou s'est demandé si le christianisme contemporain devait être une question de minorité ou s'il est nécessaire, au contraire, d'aspirer à construire un peuple chrétien, c'est-à-dire une civilisation chrétienne qui rayonne la culture chrétienne. Danielou pose un principe important qu'il est difficile de réfuter. Et je suis d'accord avec ce principe. Si le christianisme veut atteindre tous les hommes, s'il prétend qu'une vie chrétienne est possible pour les forts et pour les faibles, cela ne peut se réaliser qu'en construisant une civilisation chrétienne. S'il manque un tissu culturel engendré par l'Évangile, les chrétiens qui resteront devront aller à contre-courant. Certes, ils seront des chrétiens chevronnés, aux convictions très fortes, prêts à un engagement total, mais ils seront aussi trop peu nombreux. Selon Danielou, la majorité des hommes ne peut pas vivre en chrétien s'ils ne sont pas soutenus par un réseau de relations chrétiennes. Renoncer à cet engagement signifierait n'aspirer qu'un christianisme des élites, ce qui ne correspondrait pas à l'appel de l'Évangile à tous les hommes. C'est la difficulté avec la minorité, on comprend comme un ghetto. Et nous pouvons penser au mariage. Le mariage, c'est une vocation pour tout, mais s'il n'y a pas de réseau social, s'il n'y a pas d'aide de la société pour un mariage pour toujours, c'est difficile pour la personne de vivre ça. C'est beaucoup de personnes qui peuvent vivre le mariage indissoluble, selon le Christ, parce que c'est en communauté qui aide ces possibilités de toujours. Danielou prend pour exemple la manière dont l'Église a vécu l'évangélisation des territoires où la bonne nouvelle n'avait pas été annoncée. Après l'annonce personnelle, on en est venu à établir l'Église institutionnelle pour créer, aussitôt après, une culture chrétienne. Dans les lieux où cette dernière étape, la culture chrétienne, n'a pas été réalisée, et Danielou donne l'exemple de la Chine, le christianisme est resté un phénomène marginal. De fait, et c'est un autre exemple de Danielou, la foi ne s'est jamais transmise comme une foi nue, comme un témoignage individuel d'une personne à une autre personne. L'exemple le plus clair est la transmission de la foi dans la famille et la diffusion du baptême des enfants. Bientôt dans le christianisme, c'est la forme normale de baptiser, c'était le baptême des enfants. Quand les enfants sont baptisés, c'est parce que l'on comprend le christianisme comme une tradition née dans la famille, hospitée dans la famille, qu'on reçoit des parents en lien avec les autres coordonnées culturelles de la vie. On reçoit la foi comme quelque chose de fondamental pour la vie, parce qu'on reçoit, comme par exemple, on reçoit la langue materne. Tout cela suppose évidemment une structure familiale vivante et une responsabilité des parents envers les enfants à qui ils transmettent non seulement une façon de gagner leur vie, mais une façon de gagner la vie. Et c'est la vie éternelle que les parents demandent dans le baptême. De plus, la foi chrétienne se vit non comme une option dans la famille, dans le baptême des enfants, non comme une option que l'on pourrait laisser à l'enfant quand il sera grand, mais comme le fondement le plus originel de l'existence, comme la base de tout autre effort éducatif des parents. Le lien de baptême et de famille, c'est très important parce que je comprends la foi comme quelque chose de constitutif de ma vie. Pour illustrer la pensée de Daniel Hou, nous pouvons rappeler la comparaison que fait Saint Augustin entre le christianisme et la philosophie néoplatonicienne. Alors que les anciens sages de la Grèce avaient enseigné la vie vertueuse, pensant qu'elle n'était destinée qu'à un petit nombre, dit Augustin, il était un admirateur de la vie vertueuse des néoplatoniciens, mais c'était seulement, selon ces philosophes, pour un petit nombre. Et Augustin dit, c'est le propre du christianisme que la grande multitude peut aujourd'hui vivre à cette hauteur, enseignée par Platon, enseignée par le Christ. Et je cite Saint Augustin. Si le maître qui honore ses noms revenait à la vie et qu'il trouve les églises pleines et dessert les temples des idoles, et que le genre humain a reçu la vocation et abandonna la cupidité pour le bien temporel et passager, tend vers l'espérance de la vie éternelle et des biens spirituels et supérieurs, per être, il, ce philosophe, s'équirait en saint. Ainsi, s'il était aussi digne qu'on le dit, ce sont les choses dont nous n'avons pas eu le courage de persuader le peuple, les concédant à leur mère plus qu'en les attirant vers notre foi et notre désir. Et la fin de la citation. Certainement, Saint Augustin avoue ici la force nouvelle conférée par Dieu aux chrétiens. Mais pour lui, cela se réalise à l'intérieur de l'Église comme maison stable, comme mode concret de vie dans le corps, qui permet à cette multitude de cultiver ces vertus que les platoniciens réservaient aux seuls héros. C'est la novité du christianisme, c'est pas seulement une force, mais un réseau social qui soutient ces personnes dans la vie annoncée par le Christ. Alors, c'est le danger du christianisme ghetto. Et de tout cela, Daniel Hou conclut qu'il faut continuer à promouvoir comme unique chemin possible pour l'Église, non seulement des petites communautés d'élite, mais un peuple chrétien. Son argumentation semble être dirigée contre l'idée des minorités créatives, c'est-à-dire des petits groupes qui, en un moment de crise de civilisation, sont capables de déterminer quel sera l'avenir. En fait, il me semble que l'argumentation de Daniel Hou s'oppose plutôt à la vision du christianisme comme ghetto que comme minorité créative. La vision du ghetto surgit quand on tente de promouvoir des minorités fermées qui préservent en elles-mêmes la pureté de la foi sans se préoccuper du reste de la société. En utilisant le thème de ghetto, nous pensons immédiatement, intuitivement, au groupe peut-être fondamentaliste ou au nostalgique du passé qui demeure ancré dans leur sécurité. C'est ça. Mais vient à l'esprit, par exemple, et dans l'Église ancienne, les communautés donatistes auxquelles s'est affronté Saint Augustin, qui recherchaient la pureté radicale de leurs membres. Mais je crois que cette mentalité de ghetto ne s'applique pas uniquement aux sectes closes sur elles-mêmes de cette façon. Je crois que la vision que critique Daniel Hou concerne surtout ceci, un christianisme des convaincus, des petits groupes qui veulent vivre sérieusement leur foi, mais qui ont renoncé à produire une culture chrétienne et qui se qualifient eux-mêmes de communautés authentiques. Authentique, c'est un mot qui est employé pour Charles Taylor, le philosophe que j'ai écouté hier, et pour dire l'éthique. Aujourd'hui, l'éthique des sujets modernes, c'est d'y être authentique, et, c'est-à-dire je suis concorde avec moi-même. Et le propre de ces ghettos serait, dans ce cas, une vision spiritualiste de la vie de foi qui veut transmettre l'évangile en témoignant d'une expérience de ferveur antérieure seulement. Le problème de cette façon de voir est que l'Église ne serait alors qu'une conjonction d'individus qui partagent une même expérience subjective, et l'Église perdrait son caractère de communauté incarnée, comme nous allons le voir tout de suite. Ces expériences mystiques, c'est vrai, c'est nécessaire, mais c'est aujourd'hui dans l'Église incarnée. Et c'est capable de donner de la vie nouvelle à les relations. L'esprit se donne toujours dans la chair. C'est très important. Et c'est aussi, la critique de Danilo, c'est la possibilité d'un christianisme de masse. Il importe de souligner qu'en réalité, ce christianisme de petite communauté authentique a accepté la logique de la société contemporaine qui se centre sur l'activité individualiste du sujet. De fait, ce christianisme de minorité rêve d'une expansion à tous les hommes qui ne passe pas par une transformation culturelle et qui n'affecte pas les modes de vie dans lesquels est organisée la vie des gens. Si tel est le cas, la vision des ghettos que nous avons décrite n'est pas très éloignée d'une autre proposition possible de la présence chrétienne, celle du christianisme de masse. Bien que cette perspective de la masse puisse sembler proche de celle que propose Danilo, en réalité, elle s'en distingue profondément. En effet, ce christianisme de masse s'approche de la foule, il veut éviter une réduction de la foi aux élites, mais il le fait sans prétendre transformer la culture. Le christianisme de masse est possible, rapide, efficace, en tant qu'il ne propose aucun ordre concret de vie et qu'il se concentre seulement sur la disposition intérieure émotive de l'homme devant Dieu, devant lui-même et devant les autres. C'est le sociologue Luca Diotalevi, mais aussi le sociologue australien Brian Turner, qui a décrit cette option comme un christianisme de basse intensité, low intensity religion or Christianity, dans lequel est réduite l'importance des formes objectives de la vie chrétienne, la doctrine, la morale. Ceci se réfère particulièrement à un manque d'intérêt pour la doctrine, la loi morale, la vie sacramentelle, ou à la réduction de tous ces éléments dans l'expression d'un coup d'œil ou d'une émotion subjective. C'est le christianisme de masse qu'il peut avoir succès et seulement parce que c'est de basse intensité. Et nous le voyons proposer aujourd'hui aussi. Le deuxième point, c'est la minorité créative. Qu'est-ce que c'est la minorité créative? Productrice d'espace et de temps. Je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire, la production d'un espace et d'un temps. En face de cette vision du christianisme comme masse ou ghetto, se dresse la proposition radicalement différente de la minorité créative. Il s'agit pour une part d'une minorité, mais pas parce qu'elle restreint la bonne nouvelle à quelques-uns. La loi de la minorité est nécessaire, au contraire, parce que le christianisme se meut toujours en cercle concentrique. Dieu ne transmet pas l'évangile à chaque individu séparément, mais il le fait toujours par des médiations, de personne à personne, de chair à chair. Ainsi, la Bible développe la théologie du reste d'Israël. Un reste, c'est par exemple l'arche de Noé, de laquelle est engendré un peuple nouveau. Un reste, c'est la sainte famille où naît le Christ, origine de ce peuple. Un reste, c'est le serviteur de Yahvé, le Seigneur Jésus, qui en sa mort et sa résurrection engendre une communauté renouvelée. C'est la première distinction de le christianisme, c'est une minorité parce que c'est la méthode de Dieu de transmettre de chair à chair la salut, parce que c'est un salut de la chair, de toute la personne et de les relations humaines. En second lieu, ce qui distingue cette minorité d'un ghetto est sa capacité à produire une culture dans son environnement, c'est-à-dire de produire des manières chrétiennes de vivre. La minorité ne se contente pas de vivre ce christianisme authentique. Elle ne conçoit pas les relations seulement comme une rencontre subjective avec Dieu et avec les hommes. Tout son effort est orienté vers la production d'une culture, c'est-à-dire des modalités concrètes de se mettre en relation avec ce qui peut faire fleurir l'existence chrétienne. La minorité créative transmet l'expérience de la foi, non seulement par les témoignages de ce qui a été expérimenté antérieurement, mais parce qu'elle crée un environnement et une atmosphère, on peut dire, telle que la personne peut y être introduite et dans laquelle cette expérience devient concrète et vivable. Cette atmosphère, cet environnement en qui on peut introduire la personne, qui peut-être n'est pas convaincue, mais qui, en entrant dans cette atmosphère, il s'ouvrira et elle s'ouvrira vers la vie nouvelle. On a dit que le christianisme, les chrétiens du 20e siècle seraient mystiques ou ne seraient pas. J'ai lu dans Karl Rahner ces phrases. Et en fonction de ce que nous venons de dire, cette phrase pourrait être mal interprétée. Je pense que c'est vrai, mais pourrait être mal interprétée. Comme si le christianisme ne pouvait survivre qu'à partir d'une expérience antérieure très forte, compte tenu de la chute de ces structures externes qui les soutenaient. Je pense, au contraire, que le christianisme dépendra toujours, par son essence, non pas simplement d'un mysticisme antérieur, mais d'une manière de produire des espaces et des temps où la foi puisse germer et mûrir. On voit un mysticisme de la chair et de les relations. La clé sera la capacité de continuer à transmettre cet espace et ce temps, parce que c'est seulement elle, l'espace et le temps chrétien, qui garantit que la flamme de la rencontre avec les mystères peut s'allumer. Et je voudrais dire quelque chose sur la manque d'espace et de temps dans la culture contemporaine. Expliquer qu'est-ce que veut dire que nous ne savons pas d'espace ni de temps. Et je comprendrai l'espace comme l'espace de la relation interpersonnelle. Et le temps comme le temps de la vie qui a une unité. Et de pouvoir raconter la vie comme un chemin d'une origine et une destinée. La logique de la minorité créative est une logique sacramentelle. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour les comprendre, il est nécessaire de jeter un coup d'œil sur la structure de la société contemporaine. Cette structure est enracinée dans l'individu, dans les sujets ponctuels. Nous pourrions caractériser les problèmes de la société d'aujourd'hui par son incapacité à ouvrir des espaces et à avoir du temps. Pour cette raison, on a parlé d'une société du non-lieu et d'une crise de la représentation du temps. C'est Marc Auger, c'est ethnologue, qui a ce livre « Non-lieu, introduction à une anthropologie de la surmodernité ». Il dit que et nous avons les non-liés. Les non-liés, c'est un espace qui n'est pas constitué les sujets dans les relations. Et un non-lié, ce serait, par exemple, l'aéroport. Un aéroport, c'est une place, un espace, mais un espace dans lequel les relations n'importent pas. Je suis en passage. Un non-lié, c'est l'autoroute. Mais dans notre société, c'est la multiplication de ces non-liés. La grande cité et aussi l'Internet, les réseaux sociaux. Il est vrai qu'aujourd'hui, depuis la crise de la vision moderne de la raison, l'individu ne cherche plus le contact avec la transcendance dans sa conscience objective, mais dans des réseaux, des espaces, des récits qui lui offrent de plus vastes horizons. Ce que disait hier le Père Noguera. No? La possibilité aussi pour l'Évangile. No? On cherche la transcendance dans des réseaux, des espaces, des récits. Il en est ainsi, par exemple, dans les réseaux sociaux d'Internet, qui fournissent sans aucun doute de vastes espaces, de lieux de miroir. Mais cet espace, c'est le problème, ne résolve pas le problème de l'identité de la personne, parce qu'il n'atteigne pas le seul lieu où il est possible d'ouvrir des espaces et des temps. La condition incarnée de la personne est sa biographie relationnelle, c'est-à-dire le corps comme espace de relation. Dans l'Internet, dans les réseaux sociaux, c'est très utile, mais ce n'est pas en jeu le corps. Et on peut parler du non-lieu de la société contemporaine, et la manque d'espace et de temps, parce que tout se réduit à l'instant. Nous vivons dans l'instant, dans le présent, mais le présent qui fuit, et qui n'est pas permis de construire une identité personnelle, parce que j'arrive à mon identité humaine et chrétienne en racontant et rappelant mon histoire. Et que c'est l'histoire du Christ qui m'y est donnée dans le christianisme. Alors, la minorité qui naît dans les sacrements, c'est l'oppose à cette culture de manque d'espace et de temps. Face à cette incapacité à ouvrir des espaces et à proposer des récits qui permettent de comprendre la vie, le christianisme s'est présenté dès le début comme l'apparition d'un nouvel espace et d'un nouveau temps, tous engendrés par la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Les sacrements ont été les liés où s'engendrait cet espace et ce temps au milieu du monde. Espace et temps qui sont les propres de la minorité créative. Cet espace engendré dans les sacrements, spécialement l'Eucharistie, est un autre nouveau de relation, une manière nouvelle de comprendre et de vivre les liens interpersonnels avec nous et avec Dieu. Quant au nouveau temple qui nous est offert dans les sacrements, c'est une forme nouvelle pour raconter notre propre biographie dans l'ensemble de l'histoire du monde, de l'histoire du salut. Ce qui apparaît, ce n'est pas en premier lieu un individu nouveau, touché dans son intériorité, dans son conscience, dans son subjectivité, mais une communion nouvelle dans le corps qui rend possible que soit engendré un sujet nouveau. Concrètement, l'Église est, de son origine, une communauté engendrée à partir d'un sacrement, l'Eucharistie. L'Église naît comme la communion de ceux qui appartiennent au corps et au sang de Jésus. C'est le nouvel espace, le corps de Jésus, la forme de relation de Jésus. Et comme la communion de ceux qui appartiennent à son souvenir et à l'attente de sa venue. C'est le temple nouveau que l'Eucharistie a généré, engendré. Ce qui jaillit de l'Eucharistie, c'est un contexte ou un espace dans lequel pénètrent et mûrir les sujets nouveaux. Il s'agit, je disais, d'un corps nouveau, un nouvel ordre dynamique de relations, où l'Esprit Saint peut se répandre dans une mesure nouvelle. Nous sommes, comme personne, dans l'Eucharistie, nous sommes fils de Dieu, façon nouveau, et son frère, nous sommes frères aussi en une façon nouveau. Et nous pouvons engendrer des autres. Voilà pourquoi la communauté chrétienne commence toujours par une rencontre corporelle qui ouvre une manière concrète d'entrer en relation. Cette communauté, l'Église, est appelée corps dans l'Écriture. Et par l'entrée dans une mémoire et une espérance qui engendre. Et c'est pourquoi que cette communauté est appelée chemin dans les Actes des Apôtres. C'est la communauté qui est un corps et un chemin. Jésus se communique aux chrétiens non seulement par une pure expérience antérieure, mais par cette corporalité, cette mémoire, cette promesse et cette espérance. David Bohm l'a montré, étudiant de la physique, la créativité scientifique est possible à partir de la perception de l'ordre du réel. Un autre, c'est la créativité, est toujours liée à un autre ordre. Un ordre qui dépasse toujours notre capacité à l'exprimer dans des formules. Le regard créatif n'est pas celui qui dédaigne l'ordre, mais celui qui découvre un autre ordre, plus grand, qui, intégrant l'ordre antérieur, le dépasse. Et Bohm parle d'un implicate order, un ordre qui peut apparaître dans notre vision des choses et qui fait possible la créativité. Tout ordre nouveau ne se superpose pas à l'ancien. Il était déjà inclus en lui, de même que les premières notes d'une symphonie de Mozart contiennent déjà en germe tout son développement. Bohm applique la nécessité de cet ordre non seulement à l'étude de la nature, mais aussi à la vie en société. Et il découvre dans les phénomènes religieux l'ouverture constante de l'homme à un ordre intégral qui sert d'horizon à tout élan créatif. Je prends cet exemple, cette studieuse, Bohm, qui parle de l'ordre comme nécessaire pour la créativité. Et je l'applique à l'Eucharistie. Ainsi, à partir d'ici, nous pouvons dire que les sacrements, concrètement l'Eucharistie, communiquent cet ordre qui sert d'horizon à tout élan créatif de l'Église. Cet ordre assume en lui toute la création du monde, le pain et le vin, toute la création de l'homme, le corps et le sang, et toute la création et tout le développement de l'histoire, fait ceci en mémoire de moi. Récapitulant la totalité du réel dans la vie de Jésus ressuscité et de son Église. La communauté qui naît de l'Eucharistie est éminemment créative, à partir d'un nouvel ordre d'espace et de temps qui est engendré dans les sacrements. Tous les autres sacrements naissent de l'Eucharistie, comme autant de modes distincts par lesquels le corps du Christ touche le corps du chrétien et l'adapte à lui. Il s'agit de l'extension de l'espace et du temps de Jésus aux espaces et au temps du monde. Ces sacrements sont au nombre de 7. Ce qui indique bien sûr un nombre concret, comme le Concile de Trente l'a dit, mais aussi un chiffre symbolique. 7 révèle une totalité. Voilà pourquoi dans les 7 sacrements se trouvent symbolisés les remèdes contre tous les maux qui guettent l'homme et aussi toutes les vertus qui lui permettent de croître, selon la vision d'Alexandre de Halès. Par exemple, c'est une possibilité de l'ordre des sacrements, comme chaque sacrement correspond à un vice et à une vertu. Et le baptême, c'est contre le mal, le vice ou le mal de péché originel, et aussi tous les sacrements. L'Eucharistie, c'est la vertu de la charité. Et le mariage, c'est le remède de la concupiscence, mais aussi la vertu de la chasteté. Dans les sept sacrements, on découvre aussi les diverses étapes de la vie, de la naissance à la mort. Ce n'est pas seulement les virtus et les vices, mais aussi l'examinement de la vie. Le baptême, c'est la naissance, et l'Eucharistie, c'est le repas qui me soutient pendant le chemin. Et c'est saint Thomas d'Aquin qui a élaboré la vision des sept sacrements comme la compagnie dans le temps de la vie. Et aussi, pour saint Bonaventure, les sacrements sont les divers organes qui sont nécessaires pour construire l'Église dans sa relation au monde. C'est pourquoi les sept sacrements nous donnent la clé de la minorité créative, non seulement en tant qu'ils constituent cet acte du culte, mais en tant qu'ils embrassent la totalité de l'existence chrétienne et humaine. En eux, en les sacrements, se trouve contenu l'ordre de l'espace et du temps qui est le propre de la minorité créative et qui lui permet d'être féconde dans la société. Et je passe au dernier point, la minorité créative dans la lumière de la sacramentalité. Ce que nous disions à propos de la minorité créative correspond à ce que le Concile Vatican II a exprimé à propos de l'Église comme sacrement, Lumen Gentium. L'avantage de cette manière de parler de l'Église découle précisément de son importance pour la culture contemporaine, qui vit une crise de l'espace et du temps, que l'on peut décrire aussi comme une crise du symbolisme sacramentel. Il est vrai que de nombreux symboles existent dans notre culture digitale, on peut dire, mais ce ne sont pas des symboles dans le sens fort que leur donne la Bible. Ce ne sont pas des symboles au sens où les comprend la théologie des sacrements. Il s'agit en réalité, dans notre culture, de symboles vides, parce qu'ils n'engendrent pas d'espace de relations interpersonnelles ni de chemin biographique qui aide la personne à se déployer. Nous pouvons voir la différence si nous pensons au phénomène bien connu de l'émoticône. Vous savez, non? C'est que si on demande pour dire que je suis content ou triste, non? Dans lequel le sentiment se réduit à une communication d'un état émotif de l'âme, éliminant la logique de la participation et de la connaturalité qui peuvent se donner seulement par une implication corporelle, dans laquelle la personne se met en jeu et est disposée à partager son temps. Face à cela, parler de l'Église sacrement, c'est souligner sa capacité à produire des symboles qui aident à tisser les relations et à faire un récit de sa vie, ce qui est tellement nécessaire par notre culture. Le contexte n'est pas une vision abstraite du sacrement, mais la relation directe à l'Eucharistie. Parler de l'Église sacrement, c'est parler de l'Église Eucharistie, qui naît de l'Eucharistie. À partir de cette manière de parler de l'Église, on insiste sur sa condition incarnée en relation à l'image du corps du Christ. De fait, le concept paulinien de mystère, duquel dérive le latin sacramentum, s'enracine profondément dans l'image de l'Église corps qui naît de l'Eucharistie. Nous pourrions dire que toute minorité créative est sacrement, parce qu'elle naît et se forme à partir d'un nouvel espace et d'un nouveau temple, qui sont l'espace et le temple de l'Eucharistie. Ceci nous aide à décrire la minorité créative à partir de la logique des sacrements, en retraçant ces différentes étapes. Une minorité créative part d'une expérience baptismale, non comme un événement isolé de la vie, mais comme une coordonnée qui accompagne son chemin dans le temps. Le baptême est en effet au centre de la minorité créative, un mode d'appartenance qui situe une naissance de l'eau et de la parole. À cette lumière, la reconnaissance et la réceptivité apparaissent comme les coordonnées clés de la minorité créative, qui se sait convoquer et régénérer continuellement, le baptême est continuel, à partir d'un don originaire et partagé. Le baptême instaure dans la minorité créative la perception de vivre toujours à partir d'un corps et d'un amour que l'on a reçu, et dans lequel se cache la promesse d'un plus, d'un développement, d'une créativité qui dépasse toujours les attentes. Ajoutons que le baptême est aussi pour l'Église la capacité d'engendrer. Le corps ecclésial est aussi le corps de la mère, le sein maternel. À partir de là, s'ouvre pour la minorité créative la mission d'engendrer, qui se déploie en tâches éducatives et missionnaires. La créativité de la minorité connaît aussi plusieurs autres dimensions. L'événement de la maturation et de la croissance, c'est le sacrement de la confirmation. L'événement du pardon qui libère du passé d'une manière créative pour nous permettre de renouveler la promesse, c'est la pénitence. Et c'est la capacité que la minorité créative a d'intégrer le mal et la souffrance. C'est aussi la sanctification des moments d'épreuve qui, dans les limites de la réalité charnelle menacée en dernier terme par la mort, découvre un horizon d'éternité, c'est l'onction des malades. Et la sanctification de ces moments d'épreuve face à la mort. Dans cette créativité de la minorité sont essentielles la présence continuelle de la paternité source de Jésus, que c'est l'ordre sacerdotal, et l'enracinement dans les expériences propres à la créature et quotidienne qui situe la minorité en contact avec la société. C'est le sacrement de mariage. C'est la connexion de l'Église avec les réalités concrètes de la vie dans la chair et de l'éducation des fils. Il est bon de rappeler que la logique des sacrements ne nous donne pas seulement un nouvel espace, mais aussi un temps nouveau. Alasdair MacIntyre a parlé à ce propos de la nécessité, soit de manière d'agir familiale, soit de traditions qui transmettent une histoire vitale. Selon MacIntyre, il existe une vertu qui consiste à posséder l'essence de la tradition. C'est une vertu. Cette vertu habilite à découvrir dans la mémoire les semences de la nouveauté. La fidélité à l'héritage reçu permet de les développer et de déployer d'une manière créative ses potentialités. Nous comprenons alors que le temps de la minorité créative est générateur, qu'il produit du plus et qu'il réveille l'espérance à partir de la mémoire reconnaissante. De ce point de vue, on peut dire que l'avenir n'appartient qu'aux minorités créatives. À partir de là, cette logique sacramentelle de la minorité est appelée à s'étendre dans différentes manières d'agir, engendrant des espaces et des temps qui permettent la maturation de la vie chrétienne. De cette façon devient clair ce que nous avons déjà indiqué. La minorité ne se diffuse pas seulement par les témoignages de la vie, que c'est important, mais il ne suffit pas. Il ne suffit pas de témoigner des expériences. Il est nécessaire de créer des espaces et des temps, des formes concrètes de travail, loisirs, prières, vie fraternelle, dans lesquelles ces expériences pourront être vécu et renouvelé. Et je m'en viens à la conclusion. Quel est le mode de présence que l'Église est appelée à adopter dans le monde sécularisé? Nous pouvons rappeler brièvement les options que nous avons énumérées en montrant les contrastes avec la minorité créative et sa logique sacramentelle. En premier lieu, d'un côté, il existe une proposition de christianisme de masse, qui semble s'accorder avec la manière dont la modernité a compris la recherche de la transcendance à partir de la conscience subjective. On propose alors une foi qui découvre Dieu dans l'expérience isolée de l'individu et discerne intérieurement cette présence et cette voix. Le problème que pose cette attitude est que l'on renonce à créer une culture chrétienne. On attend la masse, et peut-être rapidement, mais sans chemin se produit une dilution de l'importance de la foi et la perte de la logique sacramentelle. Le regard sacramentel de la minorité créative, au contraire, comprend que la rencontre avec Dieu passe toujours par les relations qui ouvrent la personne au monde et aux frères. Face à un mysticisme à tendance gnostique que propose la minorité spiritualiste, on parle ici d'une minorité créative qui engendre des espaces et inaugure des temples, et c'est en cet espace et temple que l'esprit peut venir. La deuxième façon de situer le christianisme découvre dans la foi religieuse une fonction sociale, c'était une autre façon, mais qui se mesure toujours à partir des besoins de la société. C'est une réduction du christianisme à la solidarité, par exemple. Pour l'Église, la tentation consiste à accepter ce rôle fonctionnel, en comprenant l'action chrétienne seulement comme un élément qui résout les tensions et apporte des solutions. Au contraire, la vision sacramentelle ne se mesure pas par des paramètres externes qui mettent la minorité au service de la masse, entretenant ainsi la condition grégaire de cette masse. La minorité créative sait que c'est l'espace de la communion engendré par la rencontre entre les personnes qui oriente et détermine le reste de l'espace social et non l'inverse. De la même manière, les sacrements ne se mesurent pas par leur utilité pour l'Église, mais ils sont l'origine et le but de son activité. En troisième lieu, la logique sacramentelle rejette aussi l'attitude de la minorité ghetto, qui se ferme au monde dans une attitude défensive, essayant de préserver un mode de vie qui est menacé. Ici se perd la logique sacramentelle parce que les sacrements peut se comprendre seulement comme un symbole du tout, capable de saisir en soi une vision complète de l'existence qui ne peut être enfermée dans les murs d'une minorité étroite. Comme le montra le cardinal Newman, la vigueur du christianisme se montre précisément dans sa capacité à assimiler ce que lui est étranger, non pas à être assimilé par lui. Finalement, en face de tout cela, existe la proposition de la minorité créative, qui vit selon une logique sacramentelle. Cette minorité se distingue non pas seulement par l'intensité de l'expérience, mais aussi par la création d'espaces de relations et de manières de faire les récits des étapes de la vie, avec les rites de passage, dans lesquels la personne peut croître et mûrir. La vie eucharistique se situe au centre de la minorité, comme un lieu où ces communautés prennent naissance et où la prennent un nouvel ordre de relations, selon l'amour de Jésus. Les sacrements inspirent la vie de la minorité, non seulement comme des moments de célébration, mais en tant qu'ils s'étendent à toute la communauté et lui donne forme, l'ouvrant à la totalité du cosmos et de la société. Le royaume a été confié au petit troupeau, dit Jésus. L'avenir du christianisme passe par les minorités créatives, c'est-à-dire des minorités qui soient capables d'engendrer les espaces dans la société du Saint-Lieu, des espaces où l'on puisse vivre l'appartenance au corps du Christ. Ce sont des minorités aussi qui soient capables de produire le temps dans la société du non-futur, où l'on puisse vivre la mémoire et l'espérance de Jésus. Précisément parce que la minorité se préoccupe d'engendrer la culture, elle est comme un arbre qui grandit et où tous les oiseaux peuvent trouver refuge. Merci beaucoup.